Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
C'est dans quelques heures, à compter de minuit, que l'obligation du port du masque dans les endroits publics disparaîtra au Québec après pratiquement 2 ans.
Enfin, presque 2 ans. Les gens vont rentrer dans les bars ce soir avec leur masque puis vont sortir sans masque.
C'est vrai?
Tu vas le laisser tomber, sur...
Minuit,
vas faire laisser tomber sur la piste de danse. Là.
Ouais, ou les lancer en l'air comme s'ils avaient comme un
comme
chapeau.
Comme au premier plan.
Ouais, ou un chapeau de.
Comment de graduation.
De graduation. Donc, il faut dire que cette décision-là avait été confirmée par le directeur national de la santé publique par intérim, Dr. Luc Boileau, mercredi. Le port du masque qui n'allait plus être obligatoire, à l'exception, on sait, des hôpitaux, cliniques médicales, CHSLD, le transport en commun aussi, évidemment, toujours recommandé pour les personnes vulnérables. Et faut dire, gardez votre paquet de masques quand même pas trop loin, parce qu'il faudra l'utiliser effectivement dans ces endroits-là. Ouais,
si vous allez à la clinique médicale, à l'hôpital, visiter quelqu'un ou pour vous-même.
Et votre employeur peut-être le demandera aussi. Vous allez peut-être recevoir, si ce n'est pas déjà fait, des consignes en ce sens. Alors peut-être que certains qui disent « Hey, plus de masque au travail », puis là, non, tu vas remettre ton masque parce que...
Les employeurs, dans certains cas, c'est des lieux, là, tu sais, dans le bureau ou dans des usines, il y a un lieu fermé. Donc, en général, tu le porteras pas, mais il faudra que tu entraînes un dans ta poche quand tu vas dans tel lieu fermé ou tel endroit.
On comprend qu'il y a des entreprises qui ont eu des éclosions qui ont carrément causé d'énormes problèmes. Donc, je pense que certains vont vouloir le garder. Les Québécois aussi semblaient vouloir le porter encore dans une majorité. On se souvient ce sondage de l'INSPQ du début, de la fin du mois d'avril. 62% des répondants disaient vouloir continuer de le porter. 80% des 60 ans et plus. Faut dire, peut-être qu'après quelques jours, quelques semaines, avoir les autres ne pas le porter. Les cas qui s'y continuent de diminuer aussi, peut-être que tranquillement, on verra ce nombre-là chuter. Les chiffres aujourd'hui, là, dans le bilan des cas, montrent encore une fois que ça va bien au Québec. Moins 67 hospitalisations. On est à 1754. Moins une personne aux soins intensifs. Bilan des décès, par contre, toujours assez élevé à 30 décès par jour, dans la dernière journée. Alors, un chiffre quand même assez élevé. Les recherches se sont poursuivies toute la journée dans la rivière du Nord à Sainte-Adèle dans les Laurentides afin de retrouver cette adolescente qui a fait une chute accidentelle hier alors que on dit qu'elle profitait de la belle journée avec des amis sur la pause du midi à leur école secondaire qui est à proximité. On sait qu'elle aurait perdu pied. Ses amis qui ont tenté de lui porter secours sans succès. L'élève de 4e secondaire qui a été emporté par le courant. Donc vaste opération de recherche aujourd'hui là, qui impliquait pompiers, policiers, plongeurs de la Sûreté du Québec, un drone de la Sûreté du Québec qui est utilisé, qui, du haut des airs, peut donner de l'information, guide les équipes de recherche et sauvetage sur le terrain, dans des embarcations qui ratissent les berges, les berges de la rivière du Nord, un peu de chaque côté. Pour l'instant, par contre, pas de développement. Je vais vous faire entendre un extrait de quelques personnes qui étaient là aujourd'hui, et on voit que c'est une communauté qui est grandement affectée.
Je pense que c'est toute la communauté des élèves qui est touchée par le drame. La vie tient à un fil, comme on dit.
C'est vraiment triste pour tout le monde. C'est pas facile. Ça nous fait vraiment ébranlé, puis ça nous a fait réaliser beaucoup de choses. Tu sais qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer.
Plusieurs d'entre nous, c'est la première fois qu'on expérimente ça autant proche. Fait que je pense que c'est pour ça que ça nous choque autant aussi. Hein.
Les parents là-dedans doivent être complètement... dévasté là, par cette affaire-là.
On voit. Ouais, puis il y avait dans les entrevues, j'ai entendu un monsieur de certain âge là, quand même, qui a l'air d'être un local de Sainte-Adèle depuis toujours ou depuis longtemps. Il parlait de la rivière au printemps, mais des fois, les messieurs plus âgés, ils parlaient de la rivière quasiment comme c'est un danger, c'est comme connu, là, tu sais, dire, on, la rivière, on, plus tard dans l'été, on l'aime, là, mais à ce temps-ci, on en a peur un peu, on s'en tient loin.
Ouais. Parce qu'il voir, fait, parce que c'est beau et sec, mais les rivières sont encore,
non, mais il y avait de la neige dans les Hautes-Laurentides, il y avait de la neige il y a pas longtemps, donc la rivière, tu sais, le courant est vraiment très, très fort, là. C'est que, c'est ça, il y a pas de, pas de pardon là quand le courant t'emporte.
Et on a vu cette opération quand même importante. On voit les pompiers avec des pics à travers les rochers au milieu de la rivière dans le courant. Opération quand même difficile. Alors on ratissera et on continuera les opérations pour encore un certain temps, c'est certain. Revenons au dossier des fusillades à Laval. La Sûreté du Québec a annoncé aujourd'hui avoir pris l'enquête sur le meurtre d'un homme de 28 ans. C'est la première des trois là, fusillades en succession, celle qui a eu lieu dimanche.
Dans un véhicule plein de monde.
Un véhicule criblé de balles. Junior Lemoine Printemps a été tué à bord de ce véhicule vers 1h30 du matin dans le quartier Chomedey. Eux qui revenaient d'une fête familiale. Trois autres personnes qui étaient à l'intérieur ont été blessées par balles. Ce qu'on comprend, c'est que, après certaines informations, donc début d'enquête, on dit que ça semble être relié à des membres du crime organisé. Et, bon, vu des informations, on croyait pertinent de donner l'enquête à la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose d'une enquête d'ouverture sur quelque chose de similaire?
Est-ce que c'est parce que ça touche? Oui, parce que la police de Laval peut pas, si c'est quelque chose qui touche d'autres individus qui sont en dehors ou d'autres crimes qui ont été commis en dehors du territoire de Laval, là, ça peut être une raison de redonner ça à la Sûreté.
Effectivement. Alors, c'est la Sûreté du Québec qui prend le relais toujours sur cet événement. Je disais qu'un jeune de 14 ans avait été blessé gravement dans la fusillade, mais aujourd'hui, on en a su un peu plus. Sandrick Jorcelin, là, et c'est ce jeune homme originaire de la région de Boston, Massachusetts, qui était dans le véhicule qui quittait cette fête sur le boulevard Curé-Labelle lorsqu'il a été criblé de balles. Et lui a été blessé beaucoup. Coup, là, une balle en plein abdomen qui a endommagé son gros intestin, son poumon. Il a perdu un rein alors qu'il était à côté de son oncle de 28 ans. C'est lui qui est décédé, Junior Lemoine Printemps. On s'inquiète pour des séquelles à très long terme parce qu'il y a toujours une balle qui est logée dans sa colonne vertébrale. Les médecins n'ont pas voulu la retirer pour l'instant de peur qu'il ne puisse, qu'il reste paralysé. Il a été envoyé sur un vol pour Boston, toujours alité hier soir pour y être hospitalisé où on va tenter de retirer, de faire une opération qui pourrait retirer le projectile. Et moment touchant quand même aujourd'hui, enfin hier, le policier, le premier à intervenir sur les lieux et qui s'est occupé de Sandrick, est allé lui rendre visite à l'hôpital. Et la victime en pleurs, c'est un moment quand même assez fort, là, disant j'ai presque abandonné le policier, un jeune policier en civil qui lui a dit qu'il était fort, qu'il allait prier pour lui et tout ça. Ce jeune homme qui rêvait de faire du basket, qui est dans une équipe de basketball partisan des Celtics de Boston.
Mais une alors, balle le long de la colonne vertébrale, on se comprend que je suis pas chirurgien, mais c'est je peux pas aller jouer là. Comment tu peux pas, je pense que tu peux pas la laisser là. Tu peux pas la laisser.
Est-ce que c'est une intervention qui c'est pour ça qu'on ira peut-être chercher les meilleurs spécialistes d'Amérique du Nord pour ça. Et à la question pourquoi, selon lui, son oncle a été visé. Il croit qu'il y a eu une erreur sur la personne. Je ne crois pas que quiconque est impliqué dans quelque chose de malicieux dans la voiture. L'enquête qui évidemment se poursuit.
Tout savoir en 24 minutes.
Le pape sera au Canada en quelques mois à peine, en juillet, du 24 au 30 juillet prochain. Le pape François, qui a maintenant 85 ans, va faire donc son troisième voyage de l'année. Lui qui visite auparavant le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, avant de se rendre donc au Canada. 38e voyage, faut dire, depuis son élection en 2013, où il vient pour une raison qu'on connaît, là, renouveler ses excuses historiques pour les violences perpétrées pendant des décennies dans des pensionnats autochtones administrés par l'Église. On se souvient qu'au début du mois d'avril, le pape François avait présenté ses excuses en personne dans une audience au Vatican devant des représentants des Métis, des Inuits, des Premières Nations, des évêques canadiens. Il avait dit qu'il était là triste, honteux même de ce qui s'était passé, demandait pardon à Dieu pour la conduite déplorable des membres de l'Église catholique. Et là, donc, viendra dans trois villes, Edmonton, Québec et Iqaluit. Et la raison est claire pourquoi on a choisi ces trois endroits. Je vous fais entendre là-dessus Mgr Cyprien Lacroix, qui était très heureux de cette annonce de voyage aujourd'hui et qui vous explique un peu pourquoi on a choisi ces trois endroits.
Edmonton, en Alberta, c'est le lieu où il y a eu le plus de, de pensionnats autochtones dans notre pays, 25. À Iqaluit, au Nunavut, l'endroit où il y a le plus d'Inuits qui vivent au Canada, et Québec, qui inclura bien sûr Sainte-Anne-de-Beaupré, on peut se l'imaginer, le berceau de la foi en Amérique, mais aussi un lieu très, très chéri de nos frères et sœurs autochtones et de toute la population.
Effectivement, faut dire, on va passer très souvent à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce temps de l'année, c'est plein, il y a un grand camping.
C'est la fête de Sainte-Anne, exactement. Le 26 juillet.
Alors, c'est un moment où le pape sera là quand même à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça va être tout un événement.
Mais j'ai été pas surpris, mais bon, tant mieux s'il est capable, parce que il y a quelques jours, le pape avait annoncé l'annulation d'un voyage qui devait se tenir, je pense, 10-12 juin au Liban. Et le voyage a été annulé parce que le pape a des problèmes de genoux, a pas pu faire tous les événements autour de la fête de Pâques.
Il était en fauteuil roulant
depuis la mi-avril ou à peu près, là, ses déplacements sont très, très limités. Puis là, à 85 ans, une fois que tu es en fauteuil roulant, c'est pas toujours facile de reprendre. Peut-être que oui, là, peut-être que ça va bien aller, mais de reprendre ta mobilité, il semble qu'il y a des problèmes majeurs de genoux. Donc...
Mais il montrera pas l'oratoire à genoux, là.
Non, mais non, c'est qu'on avait annulé des événements pour juin au Liban. Mais là, il semble que juillet au Canada, ça va être, on est confiant que ça va être possible.
Justin Trudeau vu comme une bonne nouvelle ce voyage, disant que des excuses officielles présentées en personne au Canada de la part de l'Église catholique romaine aux survivants et à leurs familles constitueraient une étape importante et nécessaire vers une véritable réconciliation. Alors, ce sera quand même un événement marquant de l'été que cette visite du 24 au 30 juillet. Décision importante et lourde de conséquences de la Cour suprême du Canada aujourd'hui qui statue que l'intoxication extrême est une défense valide lors d'un procès, valide en cours. Faut dire qu'on se basait sur certains dossiers assez chauds là, quand même dans le pays, incluant le dossier de Matthew Brown, un jeune Albertain qui avait violemment frappé, a fait attaquer une femme en 2018. Elle avait fait, alors qu'il était sous l'effet d'alcool, de drogue, hallucinogène, elle avait été blessée, elle en souffre toujours aujourd'hui, cette femme, mais il avait plaidé qu'il ne contrôlait plus ses actes. Il avait été acquitté en première instance, ça avait été renversé, ça s'est retrouvé donc là en Cour suprême. Il y a d'autres dossiers similaires qui sont venus étoffer ce dossier-là concernant l'article 33.1 du Code criminel qui dit donc qu'on ne peut invoquer cette intoxication extrême, qu'on est responsable de l'intoxication et donc des gestes que l'on va faire une fois intoxiqué.
Sincèrement, moi je trouvais ça quand même logique là, que si tu t'es auto-intoxiqué, tu peux pas invoquer ça comme défense.
Ouais. C'est un peu comme conduire en boisson là. Tu peux pas dire je suis trop chaud pour décider de pas conduire chaud là.
C'est ça.
Bon, mais c'est pour ça que là on faut dire qu'il y a un mot quand même important là-dedans, c'est le mot extrême. Donc un moment où tu déconnectes là, et on parle de crime violent. Ce que le juge dit entre autres, c'est que cet article du Code criminel est inconstitutionnel, ça viole la charte des droits et libertés parce que la décision d'une personne de devenir ivre ne signifie pas qu'elle avait l'intention de commettre une infraction avec violence. On dit aussi que l'accusé peut être déclaré coupable sans que la poursuite ait prouvé que la personne souhaitait ou avait l'intention de commettre cet acte-là. Par contre, et ça vous fera peut-être vous gratter un peu la tête, c'est qu'au même dans le même document, on suggère au Parlement d'aller promulguer une loi pour tenir les personnes extrêmement ivres responsables de leurs crimes violents.
Mais moi, je pensais que c'était déjà ça la loi là. Mais je crois qu'on est dans ce que je saisis de tout
c'est
ça.
C'est dans la constitutionnalité. Puis
on est dans les fines nuances de jusqu'à quel point et dans quelles circonstances quand tu t'auto-intoxiques, là, quand tu t'intoxiques toi-même. Tu pourrais plaider ça comme défense.
Exactement.
Alors, parce que la Cour suprême dit dans l'état actuel de la loi, c'est pas acceptable, c'est pas constitutionnel, mais le Parlement devrait aller travailler là-dessus. Donc la Cour reconnaît qu'il y a quelque chose là.
Je pense que c'est ce que je veux pas interpréter la. C'est quand même assez complexe comme décision, mais que là le texte était peut-être trop. On pouvait pas le plaider. Et là, on voudra peut-être le nuancer dans un projet de loi plus précis, parce que le juge là-dedans, les juges ont dit que c'était même un objectif social urgent et réel de protéger les femmes, les enfants, notamment des crimes violents perpétrés par des gens qui sont en état d'intoxication extrême. Alors, c'est un problème, tous, ouais. Il faut légiférer, mais on enlève la disposition qui
actuelle. Bon. On a tous en tête, évidemment, le cas de Turcotte, là.
Oui.
Le cas célèbre au Québec de ça, c'est le cas de Turcotte, qui, lui, s'était auto-intoxiqué. Mais il y avait une complexité de plus. Lui, il s'était intoxiqué au lave-glace, là. Puis là, c'était même pas clair de l'avis des experts, c'est-à-dire...
Quel est l'effet de...
Moi, puis, je veux dire, si tu prends... Toi, puis moi, tu prends deux bidons de lave-glace, là, à mon avis. La première affaire qui arrive, c'est que tu vomis comme pas possible, là. Je dis pas que c'est bon, mais parce que tu t'intoxiques avec ce que tu digères, mais si tu te mets dans l'estomac un produit vraiment bizarre, pas rapport, même si c'est un produit qui est intoxique, il y a un point de rupture où, je veux dire, l'estomac va juste te renvoyer tout ça, là, tu sais, il va juste te retourner, va retourner à ma... Donc, le cas de Turcotte était resté, puis ça, c'était vraiment un cas d'auto-intoxication dans le cas... Est-ce que ça pourrait... T'sais, on est tous curieux, puis probablement que c'est quelque chose qui va être étudié dans les jours et les semaines à venir, d'ailleurs... On va voir qu'est-ce que le ministre de la médecine...
Il a réagi là, à la décision, affirmant que... il est essentiel de préciser que la décision d'aujourd'hui ne s'applique pas à la grande majorité des cas impliquant une personne qui commet une infraction criminelle en état d'ébriété. Alors, tiens à rappeler que ça donne pas un feu vert à n'importe qui a pris un verre pour commettre des actes criminels. C'est vraiment pas ça. Dit qu'il va examiner attentivement la décision. Et que ben ce sera au travail rendu là des parlementaires à compléter le reste. Le Parti conservateur du Canada aussi a réagi aujourd'hui, disant que la décision de la Cour suprême constitue un énorme pas en arrière pour le droit des victimes. Il est tout simplement inadmissible qu'un comportement criminel puisse être excusé en raison des actions de l'agresseur qui ont conduit à son intoxication.
Je vois que c'est pas mal à première vue, c'est pas mal ma position. Là. En attendant de connaître tous les détails, je déteste l'idée qu'une personne qui a commis un crime violent va se défendre en cour en disant « Mais j'étais gelé ben raide, on était gelé parce que tu t'es gelé. »
Ouais. Je comprends qu'en cas d'intoxication sévère,
c'est l'intoxication extrême.
C'est-à-dire, à mon il y a peut-être une des interprétations, puis là on discute, c'est si, admettons, tu veux tuer ton voisin, là. Là, tu vas m'intoxiquer de façon extrême pour y aller. Tu vas tellement être intoxiqué extrême que tu ne pourras même pas, tu deviens complètement aléatoire. Là, ce que tu fais, tu ne connectes plus avec rien. Donc, ça peut peut-être pas être utilisé dans le but de commettre un crime. Peut-être comme ça qu'on l'interprète.
On aura des interprétations dans les jours et semaines à venir.
Et des experts et des juristes qui pourront ventiler tout ça. Québec a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un nouveau plan contre le suicide au Québec, une stratégie nationale de prévention du suicide où on investira 65 millions de dollars au cours des 4 prochaines années. Christian Dubé disait, toujours attristé là, par les statistiques au Québec, qui parle de 3 suicides par jour. C'est plus de 1000 décès par année au Québec. En 2019, par exemple, 1128 personnes se sont enlevées la vie dans la province, dont 872 hommes. Des chiffres qui sont restés à peu près stables pendant toute la décennie 2010-2020. Ce qu'on veut donc, c'est changer les choses, augmenter le bien-être psychologique au Québec, diminuer le niveau de détresse. Et ça passe par quoi? Ben l'embauche de professionnels, d'intervenants, miser sur l'intégration des connaissances. On dit aussi beaucoup de prévention, entre autres aller chercher les jeunes où ils sont. Les jeunes sont beaucoup victimes des problématiques du suicide, donc on dit là, entre autres, aller les chercher sur les réseaux sociaux, les rejoindre où ils sont. Il y a des défis, par contre, d'embauche de spécialistes. Le président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide aujourd'hui, Jérôme Godreau, a dit de voir ça d'un œil positif. Il dit que l'atout principal, c'est de fixer des objectifs communs, canaliser les efforts. Lorraine Deschênes, la coprésidente du collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide, disait que pour atteindre les objectifs, c'est important justement de rejoindre les groupes à risque, particulièrement les hommes adultes, donner accès partout dans la province aussi. Elle dit qu'on habite là sur la Côte-Nord ou qu'on habite à Montréal, c'est vraiment pas la même couverture de services à la grandeur du Québec. L'objectif de ce plan-là, faire baisser les taux de suicide au Québec de 10% sur 4 ans. Alors, en gros, une centaine de décès par année de moins. Quand même un gros mandat, mais sur une problématique importante.
Mais la situation du suicide chez les jeunes, entre autres, là... Ça s'est quand même amélioré. T'sais, c'est tellement grave, c'est tellement tragique. Un, c'est un trop, mais
oui.
Il y a eu des années, moi je me souviens, les années 90, là, j'avais même amené le thème du suicide chez les jeunes en plein débat des chefs.
Ben, fin 90, ça me semble qu'il y a eu un fléau.
Et on soulignait les chiffres du Québec, même chez le suicide chez les moins de 30 ans. Je pense que les moins de 30 ans, c'était parmi les pires au monde. Là. C'était notable mondialement là, que le chiffre du Québec était hors norme. Alors ça c'est qu'il y a des choses qui ont été faites quand même. Tant mieux si on continue d'en faire.
Dossier chaud pour les prochaines élections, la présence des partis, enfin des différents chefs au débat dans de langue anglaise. On apprenait aujourd'hui que le premier ministre François Legault refuse de participer au débat en anglais durant la campagne électorale. Et c'est la même chose pour le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui refuse aussi l'offre des réseaux anglophones par les sites du consortium rassemblant CBC, CTV Global et CGAD. Du côté du premier ministre, on dit qu'il ne participe déjà au débat organisé par les réseaux TVA et Radio-Canada, que ça demande trop de temps de préparation déjà. Alors, on décline les invitations pour ces deux débats, en fait, deux autres débats, dont celui en anglais. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, sur les réseaux sociaux, disait que Parti québécois ne participera pas au débat, que la langue officielle et commune au Québec, c'est le français, et que nous serons bien évidemment disponibles pour répondre aux questions des journalistes anglophones.
Oui, le PQ est quand même allé. Il y en a eu un, parce que c'est pas une longue tradition. Il y en a eu un à la dernière élection, et le Parti québécois y était. Là. D'ailleurs, on va dire la vérité, là, Jean-François Lisée n'était pas là pour... T'es pas là pour aller gagner des votes, là. Ils pensaient pas que le Parti québécois allait faire une percée chez les anglophones. Ils étaient beaucoup plus là pour mettre des plures de...
Déstabiliser les autres,
mettre des plures de bananes et des pièges sur le chemin des autres, essayer de trouver des contradictions pour les faire mal paraître, etc., etc. Mais, moi, ce qui me concerne, c'est pas une... Il y a pas d'obligation. Le Québec, c'est en français, y a pas de... Mais... François Legault perd une occasion au moment où la communauté anglophone dit « Garde, on est abandonné, on est ci, on est ça ». À mon avis, il y a de l'exagération sur leur interprétation de la loi 96, mais bon, ça aurait été une occasion de tendre la main. Ça aurait été une occasion de montrer une courtoisie puis de dire « Non, nous, le débat en anglais, il est pas prioritaire, mais il est important ». Ben, on prouve un peu le point de la manifestation de la fin de semaine, que là, les anglophones sont laissés de côté puis tout ça.
Est-ce que ça peut être une stratégie aussi de mettre le... des tensions?
Non, je pense que François Legault se dit qu'il n'y a rien à gagner. Il est en avance d'un sondage, puis c'est le principe des risques inutiles. Ouais. Il voit ça comme ça.
C'est sûr que toutes tes petites lignes là, que tu apprends et tout ça, il faut que tu les apprennes en anglais, que tu les travailles, ça demande quand même
C'est vrai que ça demande de la préparation pour lui, probablement un débat dans sa langue seconde. Là. C'est comme, mettons, deux jours de préparation pour un débat où tu n'as pas un vote à aller chercher. Ouais. C'est probablement le calcul plate qu'il fait, là.
Bon. Parlons rapidement du dossier de l'Ukraine. En fait, la Russie va suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande à partir de samedi en raison, il faut dire, de la compagnie qui est le fournisseur, compagnie détenue à 100% par une entreprise russe, en raison d'impayés. On dit, la Finlande est en retard sur son paiement, c'est pas arrivé depuis 20 ans, on coupe l'électricité samedi. Bon, ça arrive au moment où la Finlande veut intégrer l'OTAN.
Se joint à l'OTAN.
Il veut faire un vote la semaine prochaine. Alors, ce sera à suivre, alors que le président turc, donc Erdogan, lui, s'est montré plus hostile à l'arrivée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, disant que ce n'est pas un avis positif, que les pays nordiques servent d'auberge à des terroristes du PKK, le Parti travailleur du Kurdistan. Certains analystes, par contre, voient dans ce geste d'Erdogan davantage... vouloir tirer des monnaies d'échange, négocier des F-35 ou quelque chose du genre.
C'est loufoque parce que dans les critères de l'OTAN, d'abord la Suède puis la Finlande, des pays exemplaires qui méritent certainement de faire partie de l'OTAN s'ils le demandent, s'ils le veulent, c'est souhaitable de les avoir. Et je veux dire, si on se met à faire un examen un peu plus attentif de respect des minorités puis de critères
c'est
du
lui
genre.
Qui va débarquer.
Ouais, le premier qui débarque de l'OTAN, c'est la Turquie, là. En fait, si la Turquie était pas aussi géographiquement située à un point stratégique, un pays d'une certaine taille, je pense que quand on a embarqué la Turquie dans l'OTAN, là, on a fermé un peu les yeux sur certains critères. Ça, c'est la vérité.
Et terminons avec Elon Musk qui a branlé tout le monde ce matin, qui s'intéressait à la transaction de Twitter. On sait qu'Elon Musk veut acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Le CA de Twitter qui avait approuvé la transaction à la fin du mois d'avril, a mis un doute là-dessus ce matin sur les réseaux sociaux, disant suspendre de manière temporaire ce projet d'acquisition dans l'attente de détails concernant le nombre de faux comptes sur le réseau, qui est évalué par Twitter à moins de 5%. Visiblement, Elon Musk veut prouver que c'est moins que 5 %.
Il y a des doutes.
Ça pourrait peut-être changer la valeur du réseau social parce que, on sait, tu nous donnes un chiffre de comptes actifs, mais là-dedans, combien de comptes sont de la publicité frauduleuse, des robots automatiques,
les fameux
russes,
bots,
des bots, des comptes multipliés de différents trolls. Alors ça, il veut un portrait là-dessus avant de poursuivre. Il a quand même, alors que l'action a perdu 10 % aujourd'hui de Twitter, il a republié un autre message pour leur dire qu'il était toujours commis à acheter. Et certains encore là, analystes, Mario disait peut-être une tentative d'Elon Musk de payer un petit peu moins cher aussi, ébranler un peu les marchés, pourquoi pas.
Aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'action est revenue exactement au prix avant qu'Elon Musk s'y intéresse.
Embarque là-dedans.
Ouais. C'est comme si le marché était en train de se dire, ben là, Twitter, tu sais, la plus-value qui vient de l'excitation d'Elon Musk, c'est revenu à zéro.
À suivre.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie!